CFM Cahors, le mag.
Bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. Aujourd'hui, en ce jeudi, nous parlons agriculture dans le Lot, nous parlons désertification médicale aussi, c'est quelque chose qui est important. Et pour cela, nous sommes avec notre invité, il est lui-même vice-président du conseil départemental du Lot en charge de l'agriculture et de l'aménagement solidaire des territoires. Et puis évidemment, son canton, c'est Puy-l'Évêque. Et on va voir qu'effectivement, de ce côté-là, si on ne fait rien en ce qui concerne le médical, ça c'est déjà très compliqué, ça risque de le devenir encore plus. Des questions à Rémi Branco, qui est notre invité dans ce mag. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors. Bonjour Rémi Branco.
Bonjour.
Alors vous, donc en tant que vice-président du conseil départemental du Lot, déjà vous êtes en charge de l'agriculture, donc on va parler un petit peu agriculture et notamment de ce projet que vous avez pour la production locale et qui était dans le programme du président actuel. Et puis aussi, désertification médicale bien sûr. Ça devient compliqué un petit peu partout et surtout un département très étendu comme le nôtre. Mais apparemment, Puy-l'Évêque, ça commence à être un peu plus tordu que par ailleurs. Mais d'abord, aujourd'hui, c'est une journée qui est, axée sur la grève dans l'éducation nationale. Quel est votre avis, effectivement? Est-ce que les protocoles sont très très lourds pour eux? Est-ce que c'est justifié de faire une grève comme ça? Est-ce que le gouvernement ou le ministère de l'éducation fait les bonnes choses?
Bon, vous le savez, bonjour à tous. Vous le savez, on est depuis 2 ans confronté à une pandémie qui est inédite. Donc pour un gouvernement comme celui de la France, mais ça vaut en Europe et dans le monde, c'est jamais facile de prendre des décisions quand on est face à... Et j'ai été en cabinet ministériel au niveau gouvernemental, je sais que c'est difficile de trouver les bonnes décisions. Aujourd'hui, s'agissant de l'éducation, on est quand même confronté à un problème pour le personnel éducatif, que ce soit les directeurs d'établissement, les enseignants et après, évidemment, les élèves et leurs parents. C'est qu'on a malheureusement, de la part, en l'occurrence, des autorités du gouvernement, des instructions qui sont changeantes. Du jour au lendemain, on change de protocole, on allège, on renforce. Et je crois qu'aujourd'hui, cette grève-là, elle est le signe, de la part de ces personnels, d'un manque de stabilité et de visibilité sur comment aujourd'hui on enseigne, on transmet à nos enfants dans des conditions normales, les plus normales possibles, dans un contexte qui est, lui, extraordinaire. Donc moi, je pense que c'est l'expression d'une incertitude, d'une angoisse et de la volonté d'avoir des instructions claires et stables pour bien travailler à l'école aujourd'hui.
Mais est-ce que ça aurait été le cas si c'était un autre gouvernement aussi? Est-ce qu'on aurait eu toujours ce même flottement ou est-ce qu'au contraire, il y a des gens qui pouvaient faire mieux?
Ça, on le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement peut faire mieux. Et le gouvernement doit faire mieux parce qu'il faut absolument que nos écoles fonctionnent. L'école, c'est l'égalité des chances. C'est la chance pour un gamin du Lot d'avoir autant de chances qu'un fils de médecin à Paris. Donc il faut absolument qu'aujourd'hui, l'école partout en France fonctionne normalement. Et ça, pour le coup, c'est la responsabilité du gouvernement de donner une stabilité, une visibilité pour que les équipes puissent travailler normalement dans l'intérêt des enfants.
Est-ce que ce n'est pas le but justement de ces protocoles? Alors c'est vrai que c'est chiant, faut dire ce qui est, excusez-moi pour le terme, pour tout le monde, que ça change tous les jours. Mais quand on voit que par exemple, là, l'école de Vignon-le-Quercy et le lycée hôtelier de Souillac est fermé, est-ce qu'effectivement, si maintenant on demande un allègement, si j'ai cru comprendre, on peut faire aussi avec une attestation sur l'honneur qu'on a fait l'autotest et qu'il est négatif. S'il se passe quelque chose, par exemple, est-ce qu'on ne va pas encore dire derrière, manifester et dire « ça, c'est la faute du gouvernement encore ». Vous voyez ce que je veux dire? La tendance est un peu compliquée aussi.
Je crois que ce qui énerve beaucoup et ce qui crée de l'incompréhension, c'est le fait, encore une fois, qu'on change de posture et de position tous les 15 jours. Ça, c'est pas possible. On sort de 15 jours de vacances. On savait très bien que pendant ces 15 jours, le virus, malheureusement, allait se propager, qu'on aurait des cas à la rentrée. Donc, il fallait prendre une décision. Soit on teste tout le monde en amont. Est-ce qu'on en a les moyens? J'en suis pas sûr. Soit on accepte le fait, effectivement, que le virus, quelque part, circule dans le Lot et dans les écoles. Il faut, à un moment donné, savoir si on a les moyens d'imposer un protocole. Mmh. Et si on l'a pas, on en trouve un autre. Mais il faut pas comme ça naviguer à vue. On sait très bien que ce virus-là, au cours du mois de janvier, il va malheureusement se propager dans la population. Et les enfants, on le sait, propagent évidemment, de par leurs activités communes, ce virus. Donc, il faut encore une fois qu'aujourd'hui, le gouvernement, face à la situation qu'on connaît. Là, pour le coup, elle est prévisible, hein, pour le mois et demi à venir, jusqu'aux vacances de février. On sait qu'on aura des cas en pagaille partout, y compris dans le Lot. Ce n'est pas que dans les grandes villes. On le voit aujourd'hui, effectivement. Vignon-en-Quercy, dans le nord du département, à Souillac, ça circule aussi dans le sud. Donc, il faut plus que jamais que le gouvernement soit clair sur les instructions à donner.
Alors vous qui êtes en charge justement de l'agriculture, alors oui, vous venez de prendre votre fonction, mais peut-être avez-vous une tendance. C'est vrai qu'on se souvient au tout début de la pandémie, les agriculteurs et producteurs ont été mis à mal. Fermeture des restaurants, des écoles, etc. Donc des produits en plus, tout le monde a essayé de se mobiliser. Est-ce que l'agriculture lotoise va mieux maintenant?
Alors moi d'abord, je voudrais saluer les initiatives qui ont été prises par les agriculteurs du Lot, par la Chambre d'agriculture, qui a créé la plateforme Manger Lotois, qui a permis du coup aux agriculteurs lotois d'avoir des débouchés. Parce que vous l'avez dit, avec la fermeture des restaurants et des bars, vous avez un certain nombre de débouchés habituels, traditionnels des agriculteurs qui se sont fermés. Et je pense notamment à nos viticulteurs qui n'ont pas pu vendre leur vin, que ce soit dans les restaurants lotois, mais aussi à l'export, parce qu'on l'oublie parfois, mais on a eu cette période-là où on ne pouvait plus exporter. Et derrière, après, ça veut dire reconquérir ces marchés, ce qui, pour nos viticulteurs, a été et est toujours aujourd'hui une difficulté. Et puis, pour la plupart de nos agriculteurs, c'était effectivement des débouchés, y compris, vous vous souvenez, les marchés qui n'étaient plus ouverts de plein vent pendant un temps. Cahors également, les fermetures, ça a été forcément des débouchés en moins. Mais ils ont su s'organiser, moi je voulais les féliciter, parce que non seulement pendant la pandémie, ça a été une façon pour les Lotois de venir en soutien aux agriculteurs en consommant lotois, mais on voit bien que c'est une tendance, comme l'est de toute façon, de façon générale, cette pandémie. C'est un accélérateur de tendance. Et aujourd'hui, les Lotois, comme la plupart des Français, attendent de pouvoir manger local, bio pour certains, en tout cas plus responsable et puis meilleur. Et donc aujourd'hui, on voit que cette plateforme Manger Lotois, elle va nous servir. Elle a été accélérée pendant la crise et elle va nous servir demain pour notre plan alimentaire territorial dont on parlera peut-être, qui doit permettre aux Lotois en général de manger plus facilement et à un prix accessible des produits lotois de qualité.
D'autant plus que ces mêmes agriculteurs, en tout cas, ont subi aussi l'épisode de gel en début d'année dernière.
Alors oui, là, le gel, malheureusement, quand on parle de dérèglement climatique, ça en est malheureusement un exemple flagrant. C'est-à-dire qu'entre 1991 et 2017, vous n'aviez pas eu d'épisode de gel. Pendant 16 ans, rien. Et tout d'un coup, vous avez 2017, 2019, 2021. C'est-à-dire tous les deux ans, toutes les années impaires, vous avez un épisode de gel assez terrible qui frappe évidemment la viticulture, on en a beaucoup parlé, mais aussi l'arboriculture. Les viticulteurs peuvent avoir quelques stocks. Les arboriculteurs, non. Donc quand vous pensez aux productions, évidemment, de noix, de prunes, elles ont été frappées de plein fouet. Et quant aux viticulteurs, ils ont aussi perdu, notamment dans la basse vallée du Lot, beaucoup de leur production, parfois jusqu'à 90% de leur production. Donc cet épisode de gel, vous avez vu que les collectivités publiques, notamment le département, hein, on a débloqué une enveloppe de 300 000 euros en complément de l'État et de la région. On a très bien fonctionné avec les services de la préfecture sur ces dossiers-là. On a mis des enveloppes pour le court terme, pour compenser. Mais il va falloir qu'on réfléchisse concrètement à comment on anticipe ces dérèglements. Ça passe par de la recherche en agronomie, hein, sur des cépages plus résistants. Ça passe aussi sur la question de l'assurance récolte. Le gouvernement, il travaille et il faut qu'on avance sur ce sujet-là. Et puis, ça passe plus globalement par une prise en compte du danger climatique, de l'urgence climatique à l'échelle, évidemment, française, européenne, mondiale. Hein. Mais là, le gel, pour nous, c'est la preuve concrète que si on n'agit pas, c'est un dérèglement qui va frapper tout le monde.
Hein. Bon, de toute façon, ça s'est vu hein, dans les magasins de producteurs. Et s'il y avait très peu de fruits cette année. Ah oui. Et dans les supermarchés, c'était beaucoup de l'importation.
De l'importation, plus que jamais, bien sûr. Ouais.
Le département donc, veut soutenir les agriculteurs, les producteurs locaux. Ça passe notamment par ce plan alimentation. En quoi consiste-t-il, Rémi Branco?
Alors, depuis la loi NOTRe, le département n'a pas de compétences agricoles à proprement parler.
Alors, on peut rappeler ce que c'est que la loi NOTRe.
Alors, c'était une loi qui a été votée en 2014 qui visait à clarifier, et c'est une bonne chose, les compétences des différentes collectivités territoriales pour pas que, vous savez, la commune, la communauté de communes, le département, la région se marchent dessus et fassent exactement les mêmes choses. Donc, ça part d'un bon principe. Simplement, bon, enlever la compétence agricole dans un département comme le Lot, c'est un peu dommage. Il n'en demeure pas moins que le département peut agir et agit d'ores et déjà pour nos agriculteurs. Alors, nous avons, vous le savez, des collèges dans le Lot qui représentent, avec des cantines, qui représentent à peu près 1 million de repas par an. D'ores et déjà, nous agissons dans ces collèges à travers donc l'approvisionnement de ces cantines. Nous avons à peu près 28% de produits lotois. Vous savez que la loi nous oblige à avoir 50% de produits de qualité, dont 20% de bio. C'est très bien. Mais la loi ne vous oblige pas à les prendre dans le lot. C'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre un agneau bio de Nouvelle-Zélande, ça marche.
Ah oui, d'accord.
Vous pouvez prendre de la même façon un yaourt en Bretagne, c'est moins grave, mais c'est quand même un bilan carbone pas terrible, ça marche aussi. Donc nous, ce qu'on ajoute au département, c'est un critère local. Alors aujourd'hui, je vous le disais, on est à 28% à peu près d'approvisionnement local dans nos collèges. Nous, ce qu'on espère, c'est vraiment augmenter cette part-là. Avec ma collègue Cathy Prunet, nous avons donné une enveloppe supplémentaire de 100 000 euros au collège pour les aider, parce que ça coûte un petit peu. Et puis, à côté de ça, on a lancé un travail avec la Chambre d'agriculture pour définir ensemble une charte de ce que c'est un produit lotois de qualité.
Alors c'est quoi, en quelques mots, justement ?
Par exemple, vous avez sur l'élevage... Vous avez la naissance de l'animal, son élevage, son abattage, sa transformation. Nous, on veut, alors dans un premier temps, qu'il y ait deux de ces étapes obligatoirement dans le lot. Il y a évidemment des... On dit le lot, mais ça peut être un peu limitrophe. Mmh. Imaginons, vous êtes producteur de bœuf dans... allez, admettons à Puy-l'Évêque, ouais. Dans la zone de Puy-l'Évêque. Il est absurde d'aller l'abattre à Saint-Céré quand vous avez un abattoir juste à côté, à la frontière du côté Lot-et-Garonne. Donc, on a une petite tolérance, on va dire, pour que ce soit logique. Mais... concrètement, ce qu'on veut, c'est progressivement passer de 2 à 3 étapes, et pourquoi pas 4, pour que nos produits soient tracés de la naissance jusqu'à l'abattage, la transformation et la distribution dans le lot pour assurer au lotois des produits locaux de qualité. Ça veut dire accompagner les agriculteurs dans la production, l'aide à l'installation des jeunes, hein, c'est un de nos gros défis, mais aussi les aider dans la logistique, hein, sur les outils de transformation communs, sur des légumeries, sur des ateliers de découpe. Voilà. Nous, le département, on veut être en appui de la profession agricole pour permettre de produire, transformer, distribuer plus facilement dans le lot pour les lotois.
Alors moi, je pensais que c'était déjà le cas, hein, dans les collèges, l'alimentation, une part de local.
Oui, oui, on a 28% d'alimentation locale, hein, dans nos collèges, mais on peut faire mieux. Je pense qu'on n'a pas à rougir. Hein, je pense que si on se compare avec d'autres départements, on est pas mal. Mais...
bah, c'est quoi votre objectif ?
Moi, je dirais qu'à la fin du mandat, il faudrait qu'on arrive à avoir 50% d'alimentation locale dans nos collèges. Et puis, on a comme autre objectif, à travers ce plan alimentaire territorial sur le mandat, de étendre cet approvisionnement aux EHPAD et à la restauration à domicile.
Qui sont toujours à la charge du département.
Qui dépendent du département, effectivement. Alors aujourd'hui, je vous l'ai dit, pour les collèges, c'est 1 million de repas dans l'année. Mais alors, vous le savez, le collège a des vacances. Donc, par exemple, l'été, nos fruits et légumes lotois n'ont pas de débouché dans nos collèges, puisqu'ils sont par nature fermés. Avec les EHPAD et la restauration à domicile, on a là, pour le coup, des débouchés toute l'année pour nos agriculteurs. Donc, ça va nous permettre d'arriver à un peu plus de 3 millions de repas par an qui seront servis et qui, du coup, pourront être des débouchés nouveaux pour nos paysans.
Alors, on parle du collège parce que c'est compétence département. Les lycées, c'est la région. Le primaire, c'est chaque commune. Est-ce que l'on sait, est-ce que vous avez peut-être une idée si de ce côté-là aussi, ça évolue ou pas ?
Alors oui, ça évolue, mais alors c'est très inégal. C'est-à-dire que vous avez parfois, mais ça vaut aussi dans les collèges, vous avez parfois des chefs de cuisine dans des collectivités qui sont... très preneurs de ça, qui savent transformer ces produits, qui connaissent des producteurs, qui savent aller les chercher, et puis d'autres qui ont un peu moins cette habitude. Donc nous, ce qu'on veut, c'est à travers ce schéma départemental, inciter les communes, regrouper en fait les achats, pour que les communes puissent plus facilement avoir accès pour leurs écoles primaires, idem pour la région, pour ses lycées, que concrètement ça serve à tous les échelons de la restauration collective. Ça, c'est pour l'alimentation lotoise pour les lotois. Mais alors, vous savez que dans le Lot, on produit 5 fois ce qu'on consomme.
Il y a de la marge, alors.
Donc, on a intérêt à trouver les débouchés ailleurs.
C'est clair.
Donc, c'est pour ça que là aussi, on les accompagne. Et lundi, je vous le dis, on inaugurera au grand marché au gros de Toulouse, hein, le grand mine de Toulouse, qui sert après toute la restauration, tous les marchés toulousains, donc 1 million de personnes, on inaugurera le stand des paysans bio du Quercy. Donc les lotois arrivent à Toulouse, les paysans lotois arrivent à Toulouse lundi, on inaugurera ce stand avec Carole Delga, la présidente de région, qui nous accompagne sur ce projet, et Jean-Luc Moudin, le maire de Toulouse. C'est très important pour nous que, vous savez qu'on a dans le Lot une production de grande qualité. On a des filières, vous prenez l'agneau du Quercy, très réputé, du foie gras parmi les meilleurs de France. Simplement, ces productions de qualité, il va de soi qu'elles coûtent cher. Et pour le pouvoir d'achat des lotois, certains sont accessibles, d'autres un peu moins. En tout cas, pour ces éleveurs, pour ces producteurs, il faut qu'ils trouvent des débouchés ailleurs, pas simplement dans le Lot.
C'était justement ma question, voilà, vous anticipez, c'est-à-dire que là, vous parliez des écoles primaires, mais est-ce que c'est justement... Enfin, on parlait, pardon, des écoles primaires, mais est-ce que c'est justement parce que les produits ne sont pas plus chers et qu'ils ont un budget à tenir qu'il n'y a pas encore ce...
Alors, tout à fait, c'est une très bonne réflexion. C'est pour ça, nous, qu'on met un peu plus d'argent pour les collèges pour qu'ils puissent acheter un peu plus. Mais il va de soi que vous n'allez pas pouvoir distribuer des... Enfin, faire consommer des côtelettes d'agneau tous les jours à vos collégiens. D'ailleurs, ce ne serait pas forcément bien pour leur santé. Il faut varier. Mais il va de soi que sur un agneau du Quercy, par exemple, vous avez des parties dites nobles qui, elles, ne vont pas être accessibles pour des collèges. Ça n'empêche pas de manger du très bon agneau. Mmh. Vous avez à l'école des métiers de Cahors des élèves qui travaillent sur des nouvelles recettes, qui travaillent sur des parties un peu moins nobles, un peu plus accessibles, mais qu'on peut vraiment valoriser et qui sont bonnes pour nos collégiens. Et ensuite, ces parties dites plus nobles, ben là, il faut qu'on leur trouve des débouchés, notamment dans le bassin toulousain. C'est 1 million d'habitants avec un pouvoir d'achat qui, évidemment, est supérieur au pouvoir d'achat dans le Lot. Et donc, des Toulousains qui sont friands de ces produits, qui ont envie de manger local. Nous, dans le Lot, quand on dit on mange local, ça veut dire qu'on mange lotois. Mais pour les Toulousains, ça manger des produits lotois, c'est local.
Ouais,
et
c'est
il y a à Toulouse une fierté d'appartenir plus largement à une région. Vous avez des lotois qui vivent aujourd'hui à Toulouse et des Toulousains qui sont en tout cas ravis de trouver des produits de leur région. Et il vaut mieux quand même pour eux manger de l'agneau du Quercy qu'un agneau britannique. Ils en seront ravis. Il faut que le safran, on le fasse connaître, que notre lavande, on la fasse connaître, que notre foie gras, dont ils pensent tous qu'ils viennent du Gers, ils comprennent qu'on en fait un excellent dans le Lot, que l'huile de noix du Lot, elle est merveilleuse pour accompagner les salades, notamment l'hiver quand vous avez un peu de roquefort et des endives. Bon, c'est pour faire marcher aussi nos amis aveyronnais. Voilà, il faut que les Toulousains, il faut qu'à Toulouse et au-delà, les lotois fassent connaître leurs produits. Vous savez, j'ai été 5 ans chef de cabinet du ministre de l'Agriculture à Paris. J'ai été frappé, je le dis souvent aux agriculteurs lotois, on en parle avec Christophe Canal à la Chambre d'Agriculture. Moi, j'avais tous les matins, j'exagère un peu, mais chaque mois, j'avais des agriculteurs de Dordogne ou des Aveyronnais qui venaient m'expliquer que c'était les premières fraises de Dordogne, c'était les noix du Périgord, la truffe du Périgord, c'était le meilleur veau venait de l'Aveyron, et je passe sur les autres régions. Les lotois, on a cette forme de modestie, d'humilité qui est tout à fait à notre honneur. Mais parfois, il faut qu'on soit un peu fier, un peu plus fier de ce qu'on produit, parce qu'on a des grandes filières de qualité. Il faut qu'on soit capable aussi de le dire. Ce n'est pas un gros mot d'aller dire qu'on fait de la production de qualité. Et donc, c'est l'objectif de cette inauguration à Toulouse. C'est un premier pas dans la métropole toulousaine pour proposer des produits lotois de grande qualité. On va y travailler avec le maire de Toulouse, dont l'adjoint m'a confié qu'à la métropole de Toulouse, dans la restauration collective, mais ça vaut pour les hôtels de Toulouse, ça vaut pour Airbus, ils sont en demande de ces produits de grande qualité.
Bon, moi, je le dirais avec mes mots, il ne faut pas hésiter à se la péter un peu.
Oui, sans se la péter,
finalement...
Faut pas se cacher.
On a de très très bons produits.
Faut assumer qu'on fait les bons produits. Voilà.
Rémi Branco, le 20 décembre dernier, vous avez organisé avec votre collègue Véronique Chassin dans votre canton de Puy-l'Évêque une réunion publique parce que vous inquiétez un petit peu de la désertification médicale qui se passe là-bas. Alors pour les auditeurs qui ne sont pas forcément à côté ou qui nous écoutent via le podcast ou via internet de loin, Puy-l'Évêque, Cahors, c'est combien de kilomètres?
Alors, le problème dans le Lot, c'est que si vous comptez en kilomètres,
alors,
vous n'en sortez pas.
C'est vrai, c'est des petites routes. C'est vrai.
Non, c'est 35 minutes.
Ouais.
Voilà, c'est 35 minutes.
Et pour prendre une idée, alors, si on veut aller voir un spécialiste, par exemple, il faut aller où? Un dentiste, maintenant, est-ce que vous en avez encore à Puy-l'Évêque?
Alors, le problème qu'on a, c'est un problème qui est valable un peu partout en France. C'est-à-dire que le problème dont on parle ici à Puy-l'Évêque, il est valable aussi dans certaines banlieues de quartiers populaires, y compris à Toulouse. Il est valable en Outre-mer, il est valable. J'en discutais récemment avec la maire de Pibrac, qui est en banlieue de Toulouse, la mère de Pibrac, elle me dit, mais tu sais, moi aussi, ça devient très, très compliqué d'avoir accès à des médecins. Alors,
même médecin généraliste, elle parle donc, j'imagine.
Alors, surtout les spécialistes,
Même
les généralistes, ça devient un petit peu compliqué dans certains coins. Vous avez, en gros, en moyenne, 10% de la population française qui est dans une zone de non-soins, que moi j'appelle de non-soins, c'est-à-dire sous-dotée vraiment en médecins. Dans ces zones-là, il vous faut en moyenne 11 jours pour avoir un rendez-vous avec un généraliste. Ah. Et il vous en faut 189 des jours pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmo. Donc là, ça se compte en termes de jours ou alors en termes de kilomètres. C'est-à-dire que quand vous habitez à Puy-l'Évêque, vous voulez un rendez-vous chez le dentiste, soit vous l'avez, par exemple, à Cahors dans 2 mois, 3 mois, soit vous l'avez côté Lot-et-Garonne, mais il faut attendre un peu plus, soit vous l'avez plus rapidement, un peu plus rapidement, mais il faut aller à Toulouse ou à Bordeaux. Certains habitants de Puy-l'Évêque vont jusqu'à Toulouse et Bordeaux quand ils ont un peu plus de chance à Montauban pour se faire soigner au niveau dentaire. Donc, et les dents, pardon, mais on ne parle pas, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'on parle d'un ophtalmo et d'un dentiste. Quand vous avez un problème tout de suite là, de carie, si vous ne le traitez pas tout de suite, derrière, ça s'aggrave et c'est encore plus douloureux et encore plus problématique pour votre santé. Donc, effectivement, comme vous le dites, à Puy-l'Évêque, on a un problème qui n'est pas valable qu'à Puy-l'Évêque, mais qui devient sensible. C'est qu'on a une nouvelle génération de médecins, une génération de médecins entière qui arrive à la retraite.
Ouais.
Et on a beau avoir de plus en plus de médecins, hein, inscrits à l'ordre des médecins, ça ne couvre pas ces départs à la retraite sur tout le territoire. Il y a un problème d'organisation des soins dans le pays. Donc il y a des décisions à prendre au niveau national, on y reviendra. Et puis il y a ce qu'on peut faire au niveau local. Alors moi, au niveau local, en fait, cette désertification médicale, je me suis rendu compte en faisant du porte-à-porte, pas simplement pendant la campagne, mais je me suis engagé, moi, à en faire une fois élu. Ça étonne parfois les gens de vous voir faire du porte-à-porte sans tract. Et moi, avec Véronique Chassin, on a considéré que c'était important. Quand en septembre, octobre, on s'est remis à faire du porte-à-porte, nous, on voulait parler de tous les sujets. Et d'abord de se dire, beaucoup de gens ne sont pas allés voter, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais en fait, le premier sujet qui revenait à chaque fois, c'était « Ah ben nous, on a un problème de médecin. » C'était pas l'école, le chômage, le pouvoir d'achat, même si c'est des sujets très importants. Le premier qui revenait, c'est « Mais attendez, faites quelque chose, moi je ne peux plus voir de médecin. Monsieur Charieras, qui est notre médecin à Puy-l'Évêque avec Monsieur Lévy, Monsieur Charieras va partir à la retraite, comment on va faire quand il va partir ?»
Donc, pour l'instant, il n'a pas de remplaçant, j'imagine.
Et il n'a pas de remplaçant. Donc il y a une inquiétude, voire une angoisse de se dire « Mais comment on va faire ?» Et c'est valable pour les habitants, mais c'est valable pour les médecins. Monsieur Lévy, qui est médecin à Puy-l'Évêque et qui va rester lui médecin, il me dit « Mais attendez, mais moi, je suis submergé de demandes. Je veux vivre aussi un peu quand même. J'ai des enfants, j'ai une famille. » Donc lui-même me dit « Il faut qu'on trouve des médecins. » Donc par rapport à cette situation-là, nous, on a tout de suite arrêté avec Véronique le porte-à-porte. On a dit « Il faut réunir tout le monde, les habitants, etc. Il faut qu'on parle de leurs besoins. Quels sont vos besoins en termes de généralistes, en termes de spécialistes, etc. » Donc on a fait plusieurs réunions publiques. On l'a fait une à Puy-l'Évêque, on l'a fait à Duravel, à Lagardelle, Floressas. Et moi, j'ai d'autres maires qui me disent « Venez nous en parler, venez nous dire ce qu'on peut faire. » Alors nous, ce qu'on peut faire à l'échelle donc locale, territoriale. La région Occitanie, avec Carole Delga et son vice-président Vincent Boune, qui est venu pendant la campagne à Puy-l'Évêque, se sont engagés à créer 200 médecins salariés dans toute la région d'Occitanie, avec ce qu'on appelle un groupement d'intérêt public qui va être chargé donc de les salarier à l'échelle de la région. Nous, on pense que c'est une excellente idée. Pour une raison simple, c'est que c'est valable pour les jeunes médecins, mais comme pour beaucoup de professionnels de cette jeune génération, on a une génération qui ne veut pas passer sa vie au travail de A à Z. Vous n'aurez pas aujourd'hui des jeunes diplômés de l'école de la fac de médecine de Toulouse ou de Limoges qui vous diront « Moi, je veux être un médecin de campagne à l'ancienne, travailler tous les soirs, le week-end. » Ça ne marche plus. Aujourd'hui, les médecins, ils veulent avoir une vie à côté. Ils sont prêts à gagner un peu moins, mais à avoir une vie bien organisée, en étant plusieurs sur un centre de santé, se remplacer pour les gardes, pour le week-end, pouvoir partir en vacances. Donc c'est pour ça que ce modèle du centre de santé avec de 3 à 8 médecins, pas que médecins généralistes, et aussi des infirmiers, aussi des sages-femmes, présents sur un même centre, c'est quelque chose qui attire les médecins aujourd'hui à la campagne. Moi, tout ce qui peut attirer des médecins à la campagne, et notamment dans le Lot et à Puy-l'Évêque, je prends. Alors si on peut avoir des médecins salariés, moi, j'ai fait venir donc Vincent Boune, qui est lui-même médecin urgentiste, responsable du SAMU à Toulouse, prof à la fac, qui voit des étudiants. Il me dit « Mais attends Rémi, à Puy-l'Évêque, t'as un cadre de vie qui est quand même merveilleux. Mmh. T'as plein de jeunes étudiants en médecine maintenant qui sortent, qui veulent ce cadre de vie, qui sont en couple ou qui, entre copains étudiants, veulent aller à la campagne. Il y en a deux qui viennent de s'installer dans l'Ariège, je l'ai appris récemment, idem dans le Gers. Il me dit « Mais le Lot, mais on trouvera. » Donc, il faut qu'on crée ce centre de santé. Il y en a un qui existe, par exemple, à Casal Salviac, qui marche bien. Nous, on veut inaugurer le premier GIP lotois, donc avec la région, hein. Enfin le premier centre de santé lotois issu du GIP dans le Lot, donc à Puy-l'Évêque. On y travaille avec le maire Serge Guérin et avec la communauté de communes avec Serge Badinière. L'idée, c'est d'avoir effectivement un centre de santé à Puy-l'Évêque qui puisse accueillir des médecins salariés qu'on va aller recruter. Le département fait aussi de la promotion dans les facultés de médecine pour leur proposer un cadre de travail, effectivement, où ils se regroupent, où ils soient débarrassés des charges administratives, puisque la région finance aussi une personne qui se charge de leur travail administratif. Vous savez que la paperasse aujourd'hui pour les médecins, malheureusement, ça les rebute. Hein. Mmh. Et donc moi, j'en ai parlé pas plus tard qu'il y a quelques jours, quand j'ai fait ma troisième dose, ici même à l'espace Clément Marot, une étudiante cadurcienne en fac de Limoges me dit « Mais moi, je demande que ça, à la fin de mes études, revenir travailler dans le Lot et m'installer dans le Lot, mais moi, la paperasse, c'est compliqué, je veux qu'on soit plusieurs. » Et en fait, ce modèle-là de médecin salarié proposé par la région, on se rend compte qu'en fait, il correspond complètement à la demande de beaucoup d'étudiants en médecine. Et donc, nous, on espère, à Puy-l'Évêque, en attirer comme ça
Des centres de gestion de santé qui seraient gérés par qui ? Alors, le département ? La région, pardon ?
C'est la région qui prend en charge le salaire des médecins et aussi les personnels administratifs quand il le faut pour traiter ça. Simplement, ça demande évidemment un investissement. D'abord, que la commune, en l'occurrence Puy-l'Évêque, mette à disposition un lieu. Et ça, le maire y travaille. Il faut faire quelques investissements pour le mettre évidemment aux normes et que ce soit un matériel de travail pour les médecins. Donc ça, on y travaille avec la communauté de communes. Et puis ensuite, déposer une candidature. Carole Delga est déjà informée que je l'ai fait récemment, qu'on serait candidat. Et qu'ensuite, effectivement, on trouve des médecins. Ça, c'est le rôle de la région aussi, d'aller dans les facultés de médecine, recruter auprès des jeunes étudiants des médecins et leur promettre qu'ils auront un poste et une vie magnifique à Puy-l'Évêque. Mais ça, nous, on en est convaincus.
En quelques mots, Rémi Branco, parce que c'est la fin de cette émission, très rapidement, les élections présidentielles arrivent. Vous êtes de gauche. Comment vous la voyez, la gauche, actuellement? Parce que là, il y a des partis qui vont disparaître, hein.
Ah, moi, je suis d'une franchise sur ça, vous savez, d'une sincérité entière. Moi, je suis très inquiet pour la gauche. La gauche, aujourd'hui, est éparpillée, incapable de se rassembler et avec aussi une absence de projet. Vous avez des petites propositions, des propositions parfois intéressantes, mais aucun projet global de la gauche aujourd'hui. Vous demandez à un Cadurcien, à un Lotois, ce que la gauche lui dit aujourd'hui. Il sait vous dire la région, ce qu'elle fait. Il sait vous dire un peu le département et sa commune. Il ne sait pas ce qu'aujourd'hui la gauche propose au niveau national. Moi, je suis inquiet. J'appelle les gens de gauche à l'union, à l'unité et surtout à travailler, à proposer des solutions, par exemple sur les déserts médicaux ou sur l'agriculture. Ce sera déjà une bonne chose pour les ramener aux urnes.
Et après les élections présidentielles, c'est législatives, vous allez vous présenter face à Aurélien Pradier?
Ah ouais, alors j'entends beaucoup ça. Beaucoup de gens me disent « alors il paraît que t'es candidat ». Non, moi aujourd'hui, à l'heure actuelle, effectivement, je suis sollicité par des gens qui pensent qu'on a besoin de renouveau sur ce territoire. Moi, en tout cas, je suis à la disposition de la gauche et des Lotois pour œuvrer pour eux, que ce soit au département ou ailleurs.
Donc si on vous propose, c'est oui.
Si je peux être une solution pour les Lotois, en tout cas, moi je l'écouterai
sous
et on en discutera. Ah, moi je suis de gauche, je ne m'en cache pas.
D'accord, ok. Donc on en saura effectivement un petit peu plus quand le moment sera venu. En tout cas, on va suivre ce projet de maison de santé, parce que je crois aussi que c'est en discussion également aussi du côté à Cahors également.
Tout à fait.
On sait qu'il y a un nouveau centre de santé dentaire qui va ouvrir avec la mutualité française.
Excellent.
On sait que c'est dans les projets de la municipalité aussi de trouver une maison de santé. Et puis évidemment, en ce qui concerne l'agriculture lotoise, eh bien on regardera ça également de plus près. Merci Rémi Branco d'être venu nous voir.
Merci à vous.
C'est la fin de ce magazine. Rendez-vous tout à l'heure à 17h pour la rediffusion, ainsi qu'à 21h30 et à retrouver en podcast sur cfmradio.fr. Dans un instant, le journal.